Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Il est 7 heures en Avallon et nous avons, comme tous les samedis soirs, un moment d'échange, de partage. Comme il vient d'y avoir la transmission du vœu de Bodhisattva et que nous sommes entourés de nombreux nouveaux Bodhisattvas, réjouissons-nous-en. Je propose que nous ayons peut-être pour thème principal le vœu de Bodhisattva et sa pratique, son engagement, son expérience. C'est un échange dont c'est vous qui avez la parole à partir de vos interrogations, de vos observations, de vos remarques, de vos questions. Est-ce qu'il y a un point particulier ou des points particuliers que vous auriez aimé que nous discutions? Les bodhisattvas sont des vaillants. Les bodhisattvis sont des vaillantes. Donc, sachez dépasser la réserve et Sacha, s'il vous plaît. Un bodhisattva ou une bodhisattvi, alors disons bodhisattva d'une façon générale pour la simplicité, est une personne qui fait le premier pas, qui sait prendre l'initiative d'une ouverture, qui sait tendre la main, exprimer et demander pardon, ou faire un geste de réconciliation, de conciliation, un premier pas, très important. Sacha, s'il vous plaît.
Bonsoir Lama, bonsoir à tous. Je voulais poser une question par rapport à la calomnie, c'est-à-dire si dans les 37 pratiques des bodhisattvas, j'ai du mal à savoir comment réagir au fait d'être... d'être calomnié injustement. C'est-à-dire, si par exemple on me prêterait ou on me prêterait des actes ou des volontés ou des actions qui ne sont pas vraies, mais que du coup ça puisse se développer en rumeurs, en des choses qui sont dommageables. Et je voudrais avoir votre éclairage sur ce point, s'il vous plaît.
Bien, tout est, puisque vous citez les 37 pratiques de Bodhisattva, et justement la calomnie dans ce contexte, on peut difficilement faire mieux que de citer justement ces 37 pratiques de Bodhisattva et la stance qui justement traite de la calomnie. Il y en a deux. Ils sont les stances 14 et 15. Si quelqu'un proclamait partout dans l'étendue du trikyliocosme une multitude de choses négatives sur ma personne, avec un esprit plein d'amour au sujet de cet individu, proclamait bien haut les qualités, ses qualités et la pratique d'un bodhisattva. Alors, ce sont des stances fortes et extrêmes, mais qui expriment de retourner un bienfait pour un méfait, une louange pour une calomnie. Si quelqu'un, partout dans l'étendue du trikyliocosme, le trikyliocosme, c'est les univers d'univers, comme nous en parlions tout à l'heure, dans tout les mondes des mondes, une multitude de choses négatives, avec bienveillance et bonté pour cette personne, savoir encore proclamer haut ses qualités, telle est la pratique d'un bodhisattva. Et l'instance suivante dit, si quelqu'un individu, en plein milieu d'une nombreuse assemblée, venait à clamer mes défauts et me dire de mauvaises paroles, considérer cette personne comme un ami de vertu, s'incliner devant les médisants, telle est la pratique d'un bodhisattva. Donc si quelqu'un nous calomnie en public, au milieu d'une nombreuse assemblée, disant nos défauts ou de mauvaises paroles, être capable de reconnaître cette personne comme un maître qui nous donne l'occasion de pratiquer la patience, de dépasser la réactivité d'un comportement habituel, réactif, impulsif. Merci de me donner l'occasion d'être patient. Si tu n'avais pas été là, j'aurais perdu une bonne occasion. Et pas d'une façon cynique, parce que ça peut... Mais s'incliner devant les médisants, telle est la pratique d'un bodhisattva. Et comme dans la pratique de Tonglen, savoir retourner du bon pour du mauvais, savoir accueillir ce qui est mauvais et donner du bon en toutes circonstances, autant que faire se peut, autant que l'on en est capable. Et dans cet entraînement.
Bonsoir. Je n'ai de cesse de penser et de méditer à une personne qui m'est chère et qui a de gros problèmes d'ordre psychologique, et rien n'y fait, et je ne sais plus quoi faire, parce que j'essaie par tous les moyens de lui envoyer de la bienveillance et de la bonté. Et ma question est de vous demander, dois-je continuer à avoir des pensées bienveillantes pour elle? Jusqu'à quand? Combien de temps?
Avoir une attitude bienveillante envers une personne qui est proche et qui a des difficultés psychologiques ou qui est malade d'une façon ou d'une autre, certainement, et continuer à avoir une bienveillance sans réserve à son égard, certainement, et continuellement et jusqu'au bout. Maintenant, cela ne veut pas dire que l'on va transformer la situation par simplement une pensée bienveillante. Mais la bienveillance est toujours bonne. Une présence ouverte, une présence bienveillante, une présence ouverte et bienveillante, une simple présence ouverte et bienveillante fait des miracles, a des propriétés thérapeutiques. On parle du pouvoir thérapeutique de la présence inconditionnelle, d'une présence bienveillante, inconditionnelle, sans espoir et sans crainte. Mais cette bienveillance est toujours bonne et aide toujours, même si l'on n'accomplit pas ce que l'on souhaiterait ou la transformation que l'on voudrait. Johan, s'il vous plaît.
Rinpoche. Oui, c'est pour faire part, je dirais, d'une expérience, de mon expérience personnelle par rapport aux 37 pratiques. La première fois que je les ai lues, il y a longtemps, ça m'a paru un peu difficile. Un chemin extrêmement difficile, presque impossible. C'est un petit peu ce qu'il faut se dire. Alors la question que je voudrais vous poser, c'est justement comment relativiser ces 37 pratiques, comment adapter en fonction de notre pratique personnelle, hein, les différentes stances, et on le voit bien à travers les différents livres hein, qui traitent des 37 pratiques et qui nous expliquent chacune des stances, comment on peut plus ou moins profondément s'adapter. Alors, est-ce que vous pourriez justement donner des conseils à chacun, voilà, en fonction de leur niveau de pratique, comment accueillir un peu mieux, comment s'exercer, comment... répéter, travailler. C'est ce qu'on a fait d'ailleurs dans les Sanghalokas deux années à Paris, deux années de suite. On a travaillé les 37 pratiques, alors une stance par semaine, deux stances, et puis chacun donnait son avis et c'était un véritable partage. Et petit à petit, j'ai pu faire personnellement ami-ami avec beaucoup de stances. Avec toutes, pas encore. Merci, Rinpoche.
Les 37 stances, les 37 pratiques de Bodhisattva, et il en est une par stance, sont chacune la pratique d'un grand Bodhisattva, d'un vrai Bodhisattva, d'un Bodhisattva éveillé, d'un Bodhisattva au-delà de l'ego, d'un Bodhisattva dans l'ouverture pleine et complète du cœur et de l'esprit. Un bodhisattva dans la perfection de l'amour et de la compassion altruiste et bienveillante. Donc, c'est vrai que les stances expriment des attitudes qui, de notre point de vue habituel, égocentrées, égotique, névrotique, c'est tout le contraire. Et cela peut sembler franchement impossible, certaines fois. Mais c'est bien de s'en rendre compte que c'est tout le contraire de ce que l'on aurait tendance dans une pulsion égoïste à avoir comme réaction. Et il ne s'agit pas de relativiser en disant un petit peu ou de faire des compromissions, mais de comprendre que c'est l'attitude parfaite et que ça n'est pas une attitude stupide. Parce qu'il y a cette quand même. Quand même. C'est une attitude, une réponse extrêmement forte, extrêmement puissante, transformatrice et libératrice. On raconte souvent dans cette circonstance, l'histoire d'un célèbre terroriste du temps du Bouddha, du nom d'Angulimala, son nom signifie guirlande de petits doigts. Je ne sais pas si c'était un yakuza ou... En tout cas, il avait fait vœu d'être terminé sans personne, au moins. Et chaque fois qu'il tuait une personne, il lui coupait le petit doigt et il la mettait dans un collier. Et il avait un collier de petits doigts, comme ça, de toutes les personnes qu'il avait tuées. Un personnage. Patibulaire, dont le renom était bien connu dans toutes les provinces avoisinantes. Meurtrier, multirécidiviste, terroriste, et dont l'histoire est la rencontre de cet Angulimala avec le Bouddha. L'histoire dit que le Bouddha était dans un petit village en train invité par de ses bienfaiteurs qu'il avait invité à déjeuner. Et donc, il déjeunait paisiblement à la terrasse, vous savez, dans les échoppes comme dans les petits villages indiens. Et tout d'un coup, quelqu'un arrive, Angulimala arrive, Angulimala arrive. C'était l'alerte, Angulimala. Et tout le monde ferme les planches pour fermer les échoppes, tout le monde se calfeutre chez soi. Et le Bouddha dit, bien écoutez, vous avez été très gentil, je vous remercie de l'excellent repas que vous m'avez offert, si vous permettez, je vais prendre congé. Mais vous n'y songez pas, maître, Angulimala arrive. Vous êtes très gentil, je vous remercie. Au revoir, et que tout soit propice. Donc, il ne pouvait pas arrêter le Bouddha qui sort, et eux derrière, ils ferment. Et le Bouddha marche dans la rue, alors tout était fermé, juste la rue déserte. Le Bouddha, en pleine présence, marche méditative, digne, et Angulimala arrive et il voit au loin, d'abord il arrive et il voit toutes les échoppes et les maisons closes. Ça le... Ils les ont à zéro. Hein. Et puis, il voit au loin ce kidam qui marche comme si de rien n'était. Et de loin, il lui dit, toi là-bas, arrête-toi. Le Bouddha continue de marcher en pleine présence, doucement. Et Angulimala est furieux, il prend ça comme... Comment, il n'a pas peur, je lui ordonne de s'arrêter, il n'obtempère pas. Voilà. Il court derrière, arrête-toi! Je te dis de t'arrêter! Il dégaine sur ça, il rattrape. Et finalement, il arrive devant le Bouddha, brandissant son sabre. « Ne t'avais-je pas dit d'arrêter ?» Et le Bouddha lui répond, souriant en douceur, le regardant dans les yeux, « Mais il y a longtemps que je me suis arrêté. » Et Angulimala, quoi? Dans la présence du Bouddha, s'effondre en larmes, comprenant, et après lui demande de l'accepter comme disciple. Ce qui sera fait, il arrivera à la réalisation. Et c'est comme ça qu'il échappera à la police royale qui était sur ses trousses. Donc, le pouvoir thérapeutique de la présence inconditionnelle et de cette vaillance aussi au-delà de la peur. Bien. D'autres remarques ? Jean-Louis ?
Bonsoir, Rinpoche. Lorsque l'on prend les vœux de Bodhisattva, on s'engage à aider, à soutenir tous les êtres, à les protéger. À partir de là, quel est votre sentiment ? Quelles sont vos recommandations concernant la consommation de viande animale pour les Bodhisattvas et Bodhisattvas que nous sommes ? Merci.
Le Bodhisattva est non violent. Le Bodhisattva est un guerrier. Un Bodhisattva warrior, dit-on. La voix du guerrier, la voix du Bodhisattva est la voix du guerrier, mais non pas d'un guerrier agressif, vindicatif, mais de la vaillance. La notion de guerrier ou de héros est celle de la vaillance, dans la non-peur. Comme le Bouddha devant l'Himala. Et c'est la voie de l'amour bienveillant, de la compassion non violente. Il peut y avoir un amour violent. Faire attention à ça. Si l'on associe amour et croyance, on peut par amour vouloir convertir les autres à sa croyance, quitte à leur faire violence, par amour, par exemple. Donc, un amour de non-violence, dans la règle d'or, qui comprend que nous avons tous la même motivation au bien-être et qui respecte l'autre comme soi-même, et qui ne fait pas la violence à l'autre, la violence dont on ne voudrait être victime. Ne fais pas à autrui la violence que tu ne voudrais subir. Dans une perspective de non-violence, de respect de l'autre et de respect de la vie, le végétarisme, dans lequel on évite de tuer des animaux, est recommandé. C'est une pratique éthique, de respect de la vie, de non-violence, quand on voit, quand on sait les atrocités qui sont faites aux animaux. Donc, une attitude de réserve, de non-violence, d'évitement, éviter de tuer, éviter de prendre la vie, par là même éviter une nourriture carnée, autant que faire se peut. Ce qui ne veut pas dire qu'il faille devenir un fondamentaliste du végétalisme, parce que dans une voie du milieu, au-delà des extrémismes, et c'est une attitude de Bodhisattva, c'est une éthique de Bodhisattva, je le répète, de respect de la vie et de non-violence. Et c'est aussi une attitude de respect et de protection de la vie et de l'environnement, sincère, l'on réduisait sa consommation carnée ou si l'on était végétarien, le rapport énergie-eau en termes de consommation par rapport aux apports nutritionnels calorifiques est de 1 à 10. Donc, c'est une solution pour tous les problèmes nutritionnels de la planète aussi. Et pour arrêter la déforestation. Pour faire des prairies pour des vaches à steak. Donc, être végétarien, autant que faire se peut, dans une attitude de respect de la vie et de non-violence, telle est la pratique d'un bodhisattva.
Merci.
S'il vous plaît.
Bonsoir.
Bonsoir. Je n'étais pas sûr que ça marchait. Oui, alors, bon, je sais que toute question est pour le mental. Malgré tout, il y a la souffrance. Il y a quelque chose qui souffre. L'état de sommeil profond, c'est plutôt le bonheur, enfin a posteriori. Dans l'état de rêve, la souffrance est aussi présente. Pourtant, je ne trouve pas qui souffre. Y a-t-il autre chose à faire qu'attendre patiemment ?
Oui. La patience est nécessaire, mais pas suffisante. Avec la patience, il est important qu'il y ait aussi l'énergie, le courage qui permettent de travailler avec la situation. Quelle de souffrance, quelle qu'elle soit, de s'engager avec vaillance, avec énergie, dans la pratique qui va permettre de transformer, de faire évoluer la situation, de s'en libérer. Juste attendre patiemment, d'une façon stoïque, passive, ne va pas libérer. Donc, patience, oui, mais aussi courage, effort dans la pratique libératrice et avec aussi pour cette pratique libératrice que l'on nomme méditation, que l'on nomme pleine présence, son entraînement et la compréhension libératrice qui en vient. Là, je suis en train de paraphraser les vertus de Bodhisattva que j'énumérais tout à l'heure, avec la patience, l'énergie, le courage, la stabilité de l'esprit, qui est la méditation, la compréhension de la nature de la réalité. Et vous mentionniez l'état de sommeil et l'état de rêve. Ce sont deux états de conscience intéressants. L'état de sommeil est à proprement parler un état d'inconscience. Et dans l'inconscience du sommeil profond, il n'y a ni moi ni autre. C'est un état qui est analogiquement parlant, comparable à l'état d'éveil, dans sa non-dualité. Sauf que c'est exactement le contraire, au sens où le sommeil profond est complète inconscience, ignorance, alors que l'état d'éveil est aussi non-duel, mais dans la pleine clarté et la pleine intelligence. Donc ça, c'est une remarque. Et l'état de rêve est très intéressant, car la souffrance du rêve, qui elle aussi est analogiquement parlant comparable à notre souffrance de l'état diurne, de l'état de veille, la souffrance du rêve vient de l'illusion qui consiste à prendre le rêve pour réel. Je ne sais pas si vous me suivez, mais prenons un exemple très simple, l'exemple du cauchemar. Je ne sais pas quel cauchemar vous pouvez imaginer, justement, que vous êtes poursuivi par Angoulimala. Dans votre rêve. Et au moment où il est devant vous et vous avez l'impression qu'il va sabrer, vous vous réveillez en sueur froide et le cœur palpitant. Ouh, c'était un affreux cauchemar. Maintenant, rétrospective, on revient en arrière et supposez que dans ce rêve, vous ayez été conscient que vous étiez en train de rêver et que ce brigand qui vous poursuivait était un brigand de rêve et qu'il se proposait de pourfendre votre corps onirique. Ça aurait eu un aspect, disons, bad trip, voire very bad trip, mais ça aurait été vu avec quel humour qu'un brigand de rêve veuille trucider un corps d'illusion onirique. Et ce qui fait la souffrance dans le rêve, la peur et la souffrance, c'est d'attribuer au rêve une réalité qu'il n'a pas, et de le prendre pour réel. C'est-à-dire, c'est une illusion qui consiste à prendre pour réel ce qui ne l'est pas. Donc, la souffrance, très fort, et habituellement, se développe ainsi, dans l'illusion, et dans la saisie réifiante, chosifiante, des choses en leur attribuant une réalité qu'elles n'ont pas. Donc cette compréhension a un pouvoir libérateur de beaucoup de souffrances. Bien. D'autres remarques ? L'amour ?
Oui, j'aurais, puisqu'on parlait des pratiques des 37 pratiques de Bodhisattva, j'aurais une question sur la 30e, qui est sur la compréhension, la 6e paramita.
La 30e, l'instance 30,
oui.
Oui.
J'aurais aimé savoir ce que signifie sans concevoir de triple mandala. Et du coup, puisque c'est dans le recueil des pratiques, j'aimerais bien savoir comment ça se pratique, ces 37 pratiques.
Alors, la stance 30, qui va avec la 29, qui, ou qui suit la 29, bien sûr, la 29 traite de la méditation et de la stabilité. Méditer avec l'esprit bien stable, stabiliser son esprit. Elle dit, cette ostense 29, par la vision supérieure. Vision supérieure, c'est la compréhension profonde de la réalité. Par la vision supérieure, tu restes vraiment en le repos, la vision profonde, stable. Savoir maîtriser complètement les émotions conflictuelles. Les émotions conflictuelles se maîtrisent ou se transforment, se libèrent dans l'aptitude à voir clairement d'une façon stable qu'elles se construisent et qu'elles se fabriquent dans une saisie qui, comme le rêve dont on discutait juste précédemment, attribue à la situation une réalité qu'elle n'a pas. Et demeurer parfaitement au-delà des quatre niveaux de la conscience, même sans forme, la pleine présence d'un esprit bien stable, telle est la pratique d'un bodhisattva. Et la 30 de dire, les cinq premières perfections, c'est-à-dire les cinq premières vertus, toujours les mêmes, la générosité, la discipline, la patience, le courage, courage et fort, stabilité et compréhension, c'est la sixième, les cinq premières, sans la compréhension supérieure, n'ont pas le pouvoir de nous faire obtenir l'état d'éveil parfait. Ce qui libère vraiment, c'est la compréhension de la nature de son esprit. Sache ce que tu es, réalise la nature de ton esprit. C'est cette intelligence, cette compréhension de la nature de la réalité, de la nature de la cognition, de la nature de l'esprit, qui est vraiment libératrice de toutes les illusions. Aussi doter des moyens que sont les cinq premières perfections, les cinq premières vertus, sans concevoir de triple mandala. Alors, le triple mandala est une expression traditionnelle qui veut dire un sujet, objet, relation. Il y a le mandala qui est la structure sujet. Mandala signifie structure. On donne un seul mot pour traduire mandala. La structure sujet, structure objet et structure relationnelle, et qui sont le concepteur, le conçu et la conception. Il n'y a pas de concepteur sans conçu, ni de conçu sans concepteur, et la conception est le domaine du concepteur et du conçu. Dans le triple mandala, c'est la dualité conceptuelle, la dualité de la conception en laquelle naît sujet, objet et relation. Donc, sans concevoir ce triple mandala dans l'état aconceptuel ou dans l'état de non-conception, méditer en la compréhension profonde, en la perfection de compréhension, telle est la pratique d'un bodhisattva.
Bonsoir Rinpoche.
Bonsoir.
Bodhisattva Shamedawa. Je voulais vous faire part, comme Johan, effectivement, de la pratique du Sangalloka de Paris sur les 37 pratiques d'un bodhisattva. À titre personnel, il y en a une que je considère comme très importante pour moi et qui est à la fin, je crois, 34 ou 35. Il est ardu de remédier à l'habitude d'une passion. Aussi la personne attentive en s'armant du remède antidote, ma première question, remède antidote, oui. Domptera les passions comme le désir dès leur apparition, c'est ma deuxième question, dès leur apparition,
oui.
Discipliner toutes les passions et la pratique d'un bodhisattva, et j'aimerais savoir pourquoi, alors que pour moi elle est essentielle, elle se place à la fin, parce que pour moi, elle résume quand même assez bien l'étendue du travail d'un bodhisattva.
Là, tout à fait. il y avait dans la question de l'amour aussi une deuxième partie qui était comment pratiquer les 37 pratiques, comment pratiquer les stances. Alors, une façon excellente est de les associer au sadhana de Chenrezi, au sens où l'on peut chaque jour ou pendant ou chaque semaine ou suivant les circonstances aussi prendre une stance et méditer un moment sur celle-ci, associée à Om Mani Padme Hum, ou gardant l'intelligence de cette stance avec soi et l'emmenant en soi dans sa vie et dans sa pratique quotidienne et faisant en sorte qu'elle vive en nous et que l'on vive avec elle, que l'on vive dans son esprit. Donc, c'est une façon de les pratiquer, de les intégrer. Et la stance 35 que vous citez traite de discipliner toutes les passions ou de comment se libérer des passions. Alors, elle vient à la fin parce que ce n'est pas tout à fait la dernière, mais c'est à la fois une récapitulation et aussi une excellente conclusion, parce que c'est bien le propos essentiel. Elle dit, cette stance 35, « Il est ardu de remédier à l'habitude d'une passion. » Nous sommes pris par nos passions, nous sommes possédés par celles-ci, nous sommes « addicted », les passions sont des addictions. Donc, il est difficile de sortir de cette addiction, de cette emprise passionnelle, c'est une réalité. Aussi, la personne attentive, le bodhisattva attentif, le bodhisattva qui pratique la présence attentive, saura s'armer du remède antidote, de l'antidote à la passion. Et ici, l'antidote à la passion peut se comprendre particulièrement et d'une façon générale comme ton laine. Ramène tous les remèdes à un seul, ramène tous les antidotes à un seul, ton laine. Donc, et avec cet antidote, saura dompter, saura dissoudre, saura se libérer des passions, comme le désir, l'agression ou l'indifférence, dès leur apparition. Alors, dès leur apparition, très important. C'est là que se situe l'attention, une attention qui est capable de discerner l'émergence de l'émotion le plus tôt possible. Parce que plus l'émotion se développe, plus il est difficile d'y remédier. Et arriver à un certain point critique, c'est plus possible. Donc, l'attention nous fait être vigilants et nous apprend à discerner les émotions dès leur émergence, avec une attention aussi qui utilise le corps. On parle du baromètre corporel, on parle du tableau de bord corporel, on peut sentir, ça devient chaud, la respiration peut commencer, l'adrénaline monte. Donc, d'être attentif aux symptômes de l'émotion naissante, quelle qu'elle soit, et tout de suite appliquer le remède, respirer. Alors, suivant les circonstances, mais ton laine, en accueillant et abandonnant, inspirant, expirant, ou d'une façon plus élaborée si la situation le requiert. Donc, ainsi, de dissoudre, de libérer les passions dès leur apparition et ainsi discipliner toutes les passions. Telle est la pratique d'un bodhisattva. Je vous propose à ce point un petit moment de pleine présence, attentive, ouverte, dans l'ouverture du cœur, l'ouverture de l'esprit, l'ouverture sensorielle, en une ouverture de bienveillance et de bonté universelle. Bodhicitta. Toute vertu ainsi pratiquée est sans aucune appropriation dédiée au bien de tous les vivants en la réalité absolue. Bonne soirée et meilleurs voeux à tous les jeunes bodhisattvas.